Et maintenant, c'est l'heure des rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.
Bien, il est 12h06 sur Radio Circa. Vous écoutez donc le 103.5. Nous allons retrouver très bientôt notre émission en direct des rendez-vous de midi. Mais juste avant, pour commencer, on écoute l'épisode 6 des aventures de l'inspecteur Bourdon. À vous, inspecteur Bourdon, dans la piste russe.
Radio Circa présente
les aventures de l'inspecteur Bourdon dans
la piste russe.
Épisode 6.
Épisode 6.
Voilà l'inspecteur Bourdon dans de beaux draps. Lancé aux trousses d'un mystérieux incendiaire, il se retrouve piégé au beau milieu d'une piste de cirque, menacé par les sabots de chevaux au galop. Il n'échappe au pire que grâce à l'intervention d'une trapéziste providentielle et russe. Mais n'est-elle pas complice, elle aussi ? Bourdon s'évanouit avant de le savoir.
Monsieur ! Monsieur !
Chérie ? Chérie, réveille-toi.
Chérie, c'est toi ? Il y avait cette femme. Qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Mais tu l'as échappé belle, hein ? J'ai entendu un bruit de cavalcade, des cris. En entrant, je t'ai vu allongée par terre avec cette fille. Du coup, j'ai paniqué, j'ai appelé tes collègues. Ils sont arrivés il y a 5 minutes. Ils recherchent le gars que l'on suivait. Je crois qu'il s'est volatilisé. Dieu que j'ai eu peur. J'ai bien cru que tu étais mort.
Oh, inspecteur, vous êtes réveillé ? Je vous la laisse. Au revoir, madame. Nous nous occupons de ramener les chevaux.
Merci beaucoup. Comment vous sentez-vous ?
Un peu mal au crâne. Ce bloc est vraiment redoutable, mais j'ai la tête dure. En attendant, vous allez devoir me donner quelques explications.
Des explications ? Mais sur quoi ?
Ne jouez pas la plus maline avec moi. Je vois très clair dans votre jeu. Cette petite mise en scène des chevaux et de votre balançoire ne m'ont pas trompé. Je sais que vous savez que je sais. Vous m'avez attiré dans un piège pour m'empêcher de parler.
Inspecteur, je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me dites.
Ça suffit. Mets ton carte sur table. Qui est ce dirigeant asiatique que vous essayez d'éliminer ? Pourquoi avoir mis le feu au chapiteau de la caserne ? Depuis quand êtes-vous de mèche avec l'incendiaire ? Vous m'avez repéré l'autre soir dans les toilettes et vous avez tenté de me tuer, n'est-ce pas ?
Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je viens de sauver votre vie. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Inspecteur, vous devriez aller prendre repos.
Et d'abord, comment savez-vous que je suis inspecteur ?
Mais c'est le policier qui vient de me le dire. Mais qu'est-ce qui vous prend ?
Mais enfin, chérie, laisse cette dame tranquille.
Ah, ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Allez, inutile de nier, répondez. Qui est ce cadre coréen que vous voulez éliminer ?
C'était les aventures de l'inspecteur Bourdon dans
La piste russe.
Un feuilleton radiophonique écrit par
Laurent Goual.
Avec, dans le rôle de l'inspecteur Bourdon,
Cyril Puertolas.
Dans le rôle de Madame Bourdon,
Valérie Tacheux.
Dans le rôle de Natacha,
Julie Dagneau.
Dans le rôle du pompier,
José Bernard Cassagne.
Dans le rôle de Dimitri,
Laurent Goual.
Dans le rôle de la narratrice,
Aurélia Doré.
Réalisation et montage,
Frédéric Rouziès, Raphaël Mouterde et Elisa Monteil.
Sur la piste russe, c'est Radio Circa. Tous les jours, vers midi, retrouvez le fabuleux épisode polar radiophonique. Et là, on est aujourd'hui en direct avec des programmateurs de festivals en particulier. Il y a aujourd'hui Sarka Mariskova qui nous vient de République tchèque. Bonjour. Il y a Philippe Le Gall, lui qui vient d'un petit peu moins loin, peut-être, de Bretagne.
Peut-être, parce que la Bretagne est loin de Auch.
De Auch. En train, c'est possible.
Ah oui, en train, c'est difficile. Mais
Et on a aussi Céline Spinelli, alors qui, elle, ne programme pas encore de festival, mais qui est ici à Circa dans un rôle qui n'est pas simplement celui d'une spectatrice.
Oui, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis là surtout dans le cadre de mes études, donc je ne fais que vous accompagner et vous écouter surtout.
Alors, on va commencer à parler de vos festivals, mais qui dit festival dit structure qui porte les festivals. Alors, Sarka Mariskova, votre festival s'appelle Cirkeon, je crois. Non, c'est pas ça. Alors, déjà, première erreur.
Okay, I've got. I will speak in English because I'm not so strong in French. So I'm representing here two organizations.
Je représente ici deux organisations.
Yeah, the first is Cirkeon, the Czech Contemporary Circus Center.
La première est Cirkeon, le centre contemporain de cirque.
Yeah, we've got the documentary center and the training space in Prague.
Et on a un endroit pour d'entraînement de Prague.
Yeah, in Prague, yes.
À Prague, pardon. Prague. Excusez-moi.
Yeah, sorry. And the second organization, it is the festival which is called Cirque Ouf.
Et la deuxième organisation, c'est le festival qui s'appelle Cirque Ouf.
Yeah, I'm something like program director, and it is not in Prague. It is in a small city, 200 kilometers out of Prague, in the mountains, really small city, like 25,000 inhabitants.
Ok, alors, et moi, je suis donc la programmatrice de ce festival qui a lieu dans un petit village à peu près à 200 kilomètres de Prague, qui est vraiment tout perdu, tout petit, et voilà.
Et alors, moi, la première question, justement, c'est de savoir pourquoi vous avez implanté un festival sur un lieu particulier.
Why did you create this festival in this place? Very.
It was the idea of the director of one cultural center in this place.
C'est l'idée du directeur du centre culturel de cet endroit.
Yeah, and he really wanted to do some special festival for the region, and he asked us, like Cirkeon, to do the programmation of the festival. So we just had the first edition this year, and we are preparing the second edition.
Alors en fait c'est ce directeur qui voulait vraiment créer quelque chose de particulier à cette région, qui nous a demandé de l'aider dans la programmation, et donc c'était on a eu déjà une première édition, nous allons faire la deuxième édition cette année.
Donc c'est un tout jeune festival et il ne programme que du cirque ou il est pluridisciplinaire?
I understand. No, it is only a circus festival. Because it is only for 4 days, and I would like to focus really the programmation only to circus or contemporary circus, you know.
C'est juste un festival de cirque hein, qui n'a lieu que sur 4 jours, et j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur le cirque.
Alors, and it is international festival, so we've got one program linear of the Czech shows. Like I would like to do really like Czech gaze here in this festival, and then we've got this international level, and I'm trying to do to bring really the best shows I can see.
Donc il y a vraiment deux niveaux dans ce festival. Il y a une partie spécifiquement tchèque avec des spectacles venant de République tchèque, et un autre niveau, un spectacle, enfin des créations internationales. Et il veut vraiment montrer les meilleurs spectacles.
Et alors, c'est peut-être un festival qui s'est créé pour révéler l'émergence de compagnies tchèques de cirque contemporain.
It's a way of showing to the world a new Czech shows, you know, way of emerging shows from Czech Republic. It's a way of showing them.
Yeah, it is the way how to. Like because it's not in Prague, they like everybody has to come to this small city, and they are here together for 4 days. So it's fantastic meeting point for all artists, or not all, but for the professional circus artists and for fans of contemporary circus. They can meet together and they can meet with international professional artists. So that's like a meeting point.
Alors le fait que ça soit vraiment dans un petit village, tout le monde est obligé d'aller se rendre là, et c'est vraiment un lieu de rendez-vous de tout le monde, des programmateurs et des artistes. Donc c'est vraiment le fait que ça soit dans ce lieu-là, c'est vraiment très important.
Alors je vais essayer de reposer ma question en d'autres termes. Je voulais savoir si la scène circassienne tchèque était en développement, et si c'était pour ça que se créent des festivals pour les montrer.
Like the situation in Czech Republic in the contemporary circus is now really special, because we are developing this like contemporary circus, because we haven't got so many companies. Like in professional level, I can say we've got really 5 groups.
Alors, en ce moment, la scène du cirque contemporain en République tchèque est en train de se développer, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de compagnies. Il y a à peu près 4 ou 5 compagnies qui existent.
Et alors, qui dit donc faire venir des compagnies, puisqu'il y a une partie internationale, faire venir des compagnies de l'extérieur, dit avoir de l'argent, avoir des capacités d'hébergement. Tout ça, ça se trouve facilement en République tchèque.
So, the international level of your festival, you have to have money and to find location for people to... to sleep and how do you do?
Yes, we are trying to ask for public money from Ministry of Culture, from the region, and we've got the sponsors from this region, and this is great because in Trutnov, in this small city, they really didn't know what does it mean contemporary circus, like the people, I mean. So they are really developing this genre, they are developing that this is really great, and it's something completely new for the people living there. So they want to support this event, so we've got a sponsorship. Okay.
Alors, donc on a de l'argent du ministère de la Culture, de la région aussi, et donc des sponsors locaux, puisque c'est vraiment un moment important pour cette ville qui est vraiment... Cette ville s'appelle Trutnov.
Yes.
Voilà. Et c'est vraiment une petite ville, et pour eux, de voir venir tous ces gens de cirque, c'est une belle opportunité. Donc ils nous aident beaucoup. Who are these sponsors? Qui sont ces sponsors?
Yes, the Trutnov is a really industrial city, so there are big companies, you know, Kara Trutnov, they are doing clothes, or the rubber, like really big factories. So they've got a lot of money, and they help us.
Okay. Donc en fait, Trutnov, c'est une ville industrielle, donc on a beaucoup de grosses entreprises, de grosses usines, et en fait, c'est eux qui nous aident et qui nous apportent de l'argent.
Et quel a été l'accueil de la population au début du festival?
About the population, how did they receive this festival? How did they react, in fact, population?
They love it.
Ils
really?
Adorent, ils
really?
Adorent. Vraiment.
C'est-à-dire qu'il y a un public local qui est très présent.
Yes.
Local like audience is really...
The audience is mostly from the area, and of course, like the circus fans from Prague, and they are coming to be there because the program is interesting, or I hope it will be interesting, so they've got a reason to come to spend 3 days in this small city just to be on the festival.
Alors il y a un public de la région, mais il y a aussi des gens qui viennent de Prague, hein, qui viennent directement pendant 3 jours ou 4 jours pour voir ces nouvelles créations contemporaines.
Are they people from the local people, are they curious? They don't know about circus and
yes,
ils ne connaissent pas le cirque, les gens du coin à la base.
That's why we've got a strong street program, so we've got the street shows just to present what does it mean the circus, and then we've got indoor shows in a theater and in a tent, so they are not scared that they will see something really strange or something new, so because they can see first something on the street and they are coming back. And it's fantastic.
Donc en fait, les gens du coin ne connaissent
connaissant pas vraiment le cirque, on fait beaucoup de spectacles de rue pour les attirer, pour les, pas les, leur faire peur, on va dire, voilà ce que c'est que le cirque. Et après, on a des spectacles indoor, enfin intérieurs, où les gens peuvent venir voir les spectacles.
So we are developing the contemporary circus in this area now, which is quite interesting and I think really useful. Very.
On développe le cirque contemporain dans cette région et c'est vraiment, ça marche très bien.
Alors Sarka, tu emploies le terme contemporain, c'est-à-dire qu'il y a une histoire du cirque dit traditionnel aussi en République tchèque.
So you talk about contemporary circus. Is there a history of a traditional circus in the Czech Republic?
Yeah, very strong history.
Oui, très forte histoire.
Like can you tell 100 us? Years, you know, and we are big fans because you know we had this 40 years of communism, so there was really crazy structure of like all families where like a state. I don't know how to say it.
Donc on a une histoire, on a eu 40 ans de communisme en République tchèque et
yeah, and there were strong connection between Czech like professional circus artists with like from traditional families with Russians. So the training was really very hard and they were touring in this area. I know we were on the eastern part of Europe.
Pendant la période communiste, on a eu évidemment un cirque traditionnel très, très développé qui était en lien avec, avec la Russie et le cirque russe. Et donc il y avait des programmes d'entraînement et des liens très très forts entre les deux.
Ben, d'un festival d'un jeune festival à un autre jeune festival, on passe la parole à Philippe Le Gall, Garogori.
Oui, absolument.
Et tout jeune aussi.
Tout jeune, oui, la structure n'est pas jeune, hein, le Carré Magique
oui, le festival,
existe,
je parle du festival.
Oui, depuis 20 ans et Garogori, ce festival donc que l'on a créé hors sol, comme on pourrait dire, on l'a créé en 2009, au départ sur une idée d'une biennale, donc 2009-2011, et on a décidé qu'on le reconduirait l'année prochaine, donc on part sur un cycle annuel, absolument.
Alors quand vous dites « on », qui est le on ?
Alors le on, c'est le nous collectif d'une équipe. Donc c'est une émanation, un désir subjectif assumé par l'équipe du Carré Magique, par moi en tant que responsable artistique, et donc un désir de rupture aussi, puisque le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque, est aussi un lieu pluridisciplinaire. C'est lié à l'histoire, un territoire, hein, le Trégor, côte nord bretonne. Donc une scène créée au début des années 90, dans un contexte économique porteur, puisque les télécommunications, beaucoup de scientifiques, donc une grande présence de gens désireux d'avoir aussi un confort entre guillemets, mais aussi une qualité de vie au-delà du travail, donc le théâtre était en jeu. Donc cette question de la pluridisciplinarité a toujours été le socle, et les arts du cirque sont apparus dans le paysage au milieu des années 90. Et la machine s'est enclenchée avec un public très curieux, cirque contemporain exclusivement. Et en 2009, l'idée a été d'aller, même si le Carré Magique est là, implanté, connu, reconnu, il n'en demeure pas moins que les publics, tous les publics ne franchissent pas les portes des théâtres. Et on le sait, en France, c'est un débat récurrent. On ne va pas le réouvrir comme cela, parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais en tout cas, nous, l'idée a été de sortir de nouveau de nos murs et d'inventer ce temps de festival dans un site absolument formidable, le long de la mer, dans la lande bretonne, et donc de rompre avec nos habitudes, de rompre avec notre culture de théâtre de saison, et de nous mettre non pas en danger, mais de nous mettre dans une configuration de festival, dans une autre énergie, et d'inventer une autre relation au territoire, et d'aller à la rencontre d'autres publics, puisque le public du festival n'est pas nécessairement celui qui est présent toute la saison. Donc on a aussi ouvert le champ des publics avec d'autres propositions artistiques.
Alors on va préciser, Philippe Le Gall, que quand vous parlez de centre de recherche en télécommunication et de Bretagne, on est proche de Lannion.
Nous sommes, oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas dit, c'est vrai,
Non, c'est pour ça que je le précise.
Voilà, juste à côté de Lannion, donc c'est la grande histoire des télécoms qui remonte au début des années 1960 avec la première liaison satellitaire qui a permis l'intrusion en France de l'image couleur de la télé. Donc c'était sur ce site et nous y sommes, même si l'activité scientifique est plutôt muséale et non plus... elle reste dynamique autour, mais là, en l'occurrence, nous bénéficions d'un lieu chargé d'histoire et les chapiteaux font écho au radome qui est juste en face.
Alors, on ne va pas échapper à l'analogie avec le festival Circa sur un point peut-être, Philippe Le Gall, les bénévoles. Parce que ici, le festival fonctionne évidemment avec une équipe de Circa qui programme, qui organise, mais il y a une 200 bénévoles environ, je crois, sur le festival Circa. Il faut les trouver. Quand un nouveau festival se crée comme ça, il y a une émulation aussi qui doit être générée dans la population pour qui s'imprègne du festival, pas uniquement en tant que spectateur.
Alors effectivement, là, on rentre de plein pied, j'irais dans les... Mais c'est l'histoire aussi, l'histoire de Auch n'est pas celle de Lannion. Dès lors que l'idée du festival émane de la structure elle-même, on ne part pas d'une histoire collective, c'est vraiment une invention pure. Donc je vais dire très simplement que les bénévoles, nous devons raconter une histoire. Parce qu'en plus, ce site, il n'est pas dans une ville, il est au milieu de la lande, donc il n'y a pas de proximité. Je dirais que le village est à côté, mais on l'a porté avec l'équipe et je dirais qu'on a un travail à faire aujourd'hui. Nous devons nourrir et faire partager cette histoire. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que ça ne s'est pas fondé avec un noyau de bénévoles. Donc c'est une équipe professionnelle réduite qui a inventé ce festival, donc qui est prise en charge à 100% par l'équipe et je dirais les acteurs classiques, intermittents et autres. Mais le bénévolat est une question finalement qui s'ouvre aujourd'hui lors de la deuxième édition et qui va prendre de plus en plus de place à partir de la prochaine édition. Mais c'est complètement une autre histoire.
Et alors, vous qui avez engendré ce festival, vous disiez qu'il y avait du public assez varié. L'objectif, c'est qu'il ne soit pas forcément celui du théâtre, donc d'élargir les publics. Du coup, vous avez des retours inverses sur votre programmation en saison ?
Alors comment dire, il y a une vraie césure. Hein. La saison finalement se clôt avant le festival puisque son calendrier c'est le week-end de l'Ascension, donc qui marque la fin de notre saison. Il n'est pas inscrit dans notre programme annuel, donc les spectacles n'apparaissent pas. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il y aura le 16 mai 2012 à l'ouverture du festival à Lannion. Donc c'est vraiment un saut dans le vide. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une saison, on tourne la page et on rentre dans une autre dynamique. Donc on travaille sur deux sujets dans la même année, ce qui induit une fatigue énorme pour l'équipe, puisque en fait on raconte une histoire à un public et on en invente une autre pour le même public, mais bien au-delà au niveau de la région. Donc c'est deux fois le travail d'une année, mais dans un temps très court puisque c'est 4 jours. Et c'est vrai que ce public, donc la communication est différente, le titre est déjà différent, Gare aux Gorilles n'est pas le carré magique au sens strict du terme, donc on repart à zéro. En mars on sort la communication, on relance non pas une campagne d'abonnement, mais la billetterie s'ouvre au mois de mars, elle ne s'ouvre pas avant, donc il y a une forme de culture du secret et un rendez-vous. C'est-à-dire comment, puisque moi personnellement je considère que lorsqu'on travaille et qu'on constitue, qu'on imagine une saison artistique, on raconte une histoire au public. Et là, c'est comment surprendre, comment rompre avec les habitudes, comment tout d'un coup casser notre propre image institutionnelle et aller sur des chemins de traverse et fédérer d'autres publics qui se disent que pousser les portes d'un théâtre, c'est pas forcément un geste simple. Ce qui paraît absurde aujourd'hui, puisqu'évidemment on a toute la batterie de dispositifs pour justement créer la relation avec le public, mais le cirque induit un appel d'air, il induit un autre imaginaire, le chapiteau est aussi une projection pour le public, et de ce fait, nous avons des publics beaucoup plus larges, peut-être plus jeunes d'ailleurs que nos abonnés classiques, mais qui sont extrêmement présents. Pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans que le cirque est un rendez-vous récurrent au Carré Magique, donc des compagnies comme les Arceaux, nous avons accueilli toutes les créations, mais dernièrement, par exemple, Rasposo est venu avec Parfum d'Est, la création du Chant du Dindon, à peine sortie de la base de la compagnie, est arrivée chez nous. Le public a répondu présent sans se soucier a priori du contenu, mais tout simplement parce que Rasposo, il l'avait vu, et ceux qui ne l'avaient pas vu en avaient entendu parler. Donc il y a eu comme ça un effet aspirateur, et des nouveaux publics s'agrègent, puisque nous sommes aussi dans cette logique de réflexion sur le territoire, puisqu'on nous dit souvent les théâtres, vous êtes derrière vos murs, sortez de vos murs, et là nous nous positionnons hors de nos murs, à un endroit où effectivement le rendez-vous est possible, puisque tout le monde le sait, la côte bretonne est une côte qui attire, donc il y a énormément de monde, pas mal d'étrangers, d'anglais en l'occurrence, et il y a une mixité des populations qui découvrent le site. Et cette année par exemple, en 2011 au printemps, on a vu arriver des gens qui se demandaient ce qui se passait et qui venaient nous rendre visite et découvrir ce site, ce festival, cette structure. Donc on touche vraiment des gens qui ne sont pas liés à l'histoire du Carré.
Et par rapport aux dates du festival,
c'est sur le long week-end de l'Ascension. Ah oui, donc il y a un week-end mobile évidemment qu'on ne maîtrise pas. Donc en 2011 c'était début juin, et en 2012 ce sera mi-mai, du 16 au 19.
C'est une volonté quand même d'avoir une date de vacances, enfin de...
Mais oui, puisque la première édition, juste très court, nous l'avons inscrite en mai 2009, la seule semaine où il n'y avait aucun pont, aucun jour férié. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, les gens vivent, travaillent ici, donc ils sont présents, donc ils vont venir. Erreur, puisqu'ils sont venus, mais comme nous jouions du mercredi au samedi, ils étaient en nombre, en très grand nombre le vendredi, samedi, mais le mercredi, jeudi, ça a été plus difficile. Et cette année-là, les conditions météo étaient un peu dures aussi, ça arrive en Bretagne, qu'il ne fasse pas beau, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Et donc j'ai arpenté toute la côte tout le mois de mai, et je me suis dit, mais nous avons commis un contresens. À l'Ascension, c'est quasiment l'un des premiers rendez-vous. Beaucoup de gens arrivent en Bretagne, les maisons, les volets s'ouvrent, les campings commencent à se remplir. Donc en fait, on a une population qui vient, et les gens arrivent donc. Et ceux qui ne partent pas, parce qu'il y en a quand même, ils sont disponibles. Il y a un moment comme ça, c'est un peu le premier rendez-vous où les gens se détendent et finalement se laissent prendre par l'histoire que l'on propose, ce qui nous permet aussi de panacher forme sous chapiteau, rendez-vous, on va dire, fédérateur, et aussi proposition plus poussée de recherche, ce qui était également l'un des objectifs dissimulés du festival. Mixer les genres artistiques pour justement faire en sorte que les gens, dans une configuration où ils sont un peu plus réceptifs et un peu plus à même de se laisser surprendre, qu'ils embarquent et qu'ils se laissent... qu'ils osent aller vers des spectacles qu'ils ne connaissent pas, a priori.
Et finalement, ce festival s'adresse à quel public ? Parce que vous avez parlé d'un public local qui vit et travaille ici. Vous avez parlé de camping, donc peut-être qu'on parle de touristes en même temps.
Alors attention, il n'est pas conçu dans une dynamique touristique. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que dans le champ économique, on nous dit souvent que nous ne sommes pas tout à fait dans le même champ que le monde de l'entreprise, que l'opérateur économique. Ce à quoi nous répondons, attention, nous générons aussi des flux d'argent, nous faisons travailler l'hôtellerie, nous sommes, et là, pour le coup, ce territoire du Trégor est très sensible à ça, puisqu'ils ont compris, les opérateurs politiques, que le monde économique n'est pas simplement un monde où les gens travaillent, point. Donc il y a cette, ils savent qu'il y a une valeur ajoutée. Dire que dans le Trégor, il y a effectivement un lieu qui est le Carré Magique, qu'il y a un festival, ils ont compris que c'est aussi un effet de levier. Puisque, entendons-nous bien, on vient en Bretagne parce qu'il y a des paysages, on ne vient pas forcément pour bronzer, donc on n'est pas du tout dans un rapport ou de consommation classique touristique, et il nous importait aussi de démontrer que nous sommes capables d'impacter je dirais le territoire sur le plan économique, et c'est vrai que des étrangers viennent, on se situe quand même très majoritairement sur un public breton, mais on ne sait pas ce que sera la suite de l'aventure en fonction de la programmation, de notre capacité à communiquer au-delà. Il est clair qu'on peut se dire, tiens, je viens voir des spectacles. Il y a des programmateurs qui sont venus. D'ailleurs, c'est toujours bien, ce sont des programmateurs qui se disent, bah, finalement, en un temps très court, en plus, on cumule un cadre exceptionnel, un temps un peu de break dans nos quotidiens professionnels. Et finalement, il y a des spectacles, il y a un rendez-vous, il y a une cohérence, il y a des propositions qui peuvent nous intéresser. Donc on le voit, ça réagit à cet endroit-là.
Alors, Céline, toi qui prends des notes depuis le début de l'émission, tu vas nous donner un petit peu le compte rendu de tes réflexions. Tu es étudiante en anthropologie, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Les notes, oui, ça fait partie de un peu des habitudes presque déjà. Oui, je suis étudiante en anthropologie en thèse, donc à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. J'accompagne notamment un festival au Brésil, en étant franco-brésilienne, un festival qui se passe dans la ville de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais, et qui cette année s'est passé du 26 août au 4 septembre. Donc je viens quasiment juste d'y rentrer. Et donc voilà, je suis à Circa, parce que j'ai aussi l'intention de mieux connaître la scène française, que je pense qu'il peut être comparé d'une façon peut-être intéressante avec le cadre brésilien.
Alors, quand tu parles de scène brésilienne, on est bien toujours dans le cirque dit contemporain. Ce festival au Brésil programme uniquement du cirque.
Alors, ça, c'est déjà une question qui pourrait être intéressante, parce que c'est une...
J'espère bien que je pose des questions intéressantes.
Mais d'une façon plus globale que juste la question en soi, parce que c'est une dichotomie, en fait, ce qu'on va cadrer en tant que contemporain ou en tant que traditionnel ou un cirque ancien. Et on n'a pas forcément cette dichotomie au Brésil, vu qu'on a eu quand même un processus de reconfiguration du cirque qui est encore actuellement en train de se dérouler. Ce qui fait qu'il y a des écoles qui apportent de nouvelles techniques et une esthétique qui est renouvelée, mais qui n'a pas forcément une rupture avec ce qui est le cirque, donc, qu'on pourrait dire traditionnel. Comme ça se mélange, dans le festival, on peut rencontrer plusieurs esthétiques, on peut rencontrer des mélanges qui ont vraiment un pied très fort dans le cirque qui est encore traditionnel, parce que ce sont des numéros, parce que c'est fait avec des bases qui sont ancrées et assumées dans le cirque, donc, disons, traditionnel, de famille, de génération. Donc c'est un peu plus difficile de voir cette différence tellement marquée. Mais il faut dire, à part ceci, que le festival de Belo Horizonte reste quand même un festival qui privilégie la scène contemporaine et qui fait venir des compagnies étrangères, notamment françaises, du cirque qui est actuel. Comme par hasard cette année, par exemple cette année, il y avait l'école Porteur avec le spectacle Le Fil sous la neige, qui est donc très très ancré dans cette scène contemporaine actuelle.
Alors, est-ce qu'il y a une tradition circassienne au Brésil qui existe ?
Oui, oui, oui. En fait, le cirque est une forme d'art qui est très diffusée au Brésil. Il a eu, bien entendu, un peu de... Disons, il a un peu retombé dans les années 80 parce que c'était un mouvement historique de réouverture avec la dictature, etc., et avec beaucoup de différences, des transformations historiques qui se passaient. Mais c'est quand même, si vous voulez, ce cirque traditionnel de famille, ce qui apporte à quelques petites villes qui sont très éloignées une façon d'art et une occasion de pouvoir être dans un moment de rencontre et de loisir. Donc ça reste quand même quelque chose qui a une tradition assez importante.
C'est comme en France, le cirque des familles, comme tu préfères l'appeler, tu préfères utiliser ce terme que le cirque traditionnel, si j'ai bien compris, le cirque des familles.
Le cirque, parce que, comme le dire cirque traditionnel, il y a quand même déjà beaucoup de préjugés et toute plusieurs significations qui donne sens à ça, et pour le cirque contemporain aussi. Donc on peut des fois utiliser plutôt cirque de famille, ça peut parler plus. Mmh.
Et est-ce qu'il y a une dichotomie, alors là, comme en France, entre ce cirque-là des familles et le cirque plus contemporain, cirque des familles qui est en gros une entreprise privée qui gagne l'argent que les spectateurs lui donnent, et pas plus que ça, et du cirque contemporain, en tout cas en France, hein, je ne sais pas si c'est comme ça au Brésil, qui sont payés elles aussi, mais dans des circuits largement subventionnés par le ministère de la Culture, en fait. Donc c'est une autre économie quand même, c'est un peu comme ça aussi au Brésil ou...
Alors au Brésil, on n'a pas encore cette subvention qui est aussi importante. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de vivre de ça et de produire ce circuit circassien qui est déjà aussi développé en France, par exemple. Et si vous voulez, ce sont des économies différentes. Depuis le moment où il y a des écoles de cirque, donc depuis les années 80, il y a des jeunes artistes qui ne seront pas des enfants de la balle, ainsi comme en France, et qui vont donc former des compagnies, qui vont pouvoir apporter de nouvelles idées et d'autres esthétiques pour le cirque. Il y a avec ça un renouveau, mais si vous voulez, le côté entreprise continue encore à être très bien structuré dans les familles, plutôt que dans les compagnies, parce qu'elles sont encore en train de se développer et de découvrir un univers qui est encore en construction.
Eh bien, on va reprendre notre souffle en faisant une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
You went to sea for the day. You wanted to know what to say. When he's asked what he done in the past to someone that he loved endlessly, now she's gone. So is he. I went to war every morning. I lost my way, but now I'm following what you said in my arms, what I read in the charm that I durably. Now it's dead and gone, and I am free. Oh, 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 oh. We wanted to hold on to the feeling of the stretch in the sun and our breathlessness as we run to the beat endlessly as the sun creeps up on the sea.
Après cette pause musicale, nous reprenons donc notre émission sur les festivals de cirque, représentée ici par trois pays finalement, puisqu'on a Céline qui représente le Brésil, Philippe qui est programmateur en France et Sarka qui nous vient de République tchèque. Donc moi je voudrais savoir pour chacun quelle place a le cirque dans la culture de chaque pays. Comment est-ce que le cirque est ancré dans les mœurs, donc au Brésil, en France et en République tchèque. Donc peut-être que Philippe, tu veux commencer ?
Oui. Bah, la place du cirque en France, je dirais que c'est pas une place, c'est l'histoire du cirque, puisque le cirque traditionnel était très présent historiquement. Les années 70 voient l'émergence du nouveau cirque. Avec les acteurs que l'on connaît, qui sont toujours présents, emblématiques, donc on pourrait citer Plume, mais on pourrait en citer d'autres. Et il y a, d'ailleurs, c'est très compliqué comme question, parce que nous ne parlons plus du cirque, nous parlons parfois des arts du cirque, nous disons le cirque contemporain, le cirque actuel, on va vers des concepts où on entend comme en danse contemporaine, où on a parlé à un moment de non-danse, on parle de non-cirque, d'outre-cirque, donc on voit bien que ça évolue. Par contre, ce qu'il faut souligner peut-être aujourd'hui et de manière globale, c'est que les arts du cirque, par porosité, ont investi tous les champs artistiques parce que justement les chorégraphes, les metteurs en scène se sont intéressés aux circassiens, à leurs capacités qui ne sont pas celles forcément d'un danseur ou d'un acteur. Et on voit bien que le mélange des genres, qu'il y a eu une double porosité à la fois, le théâtre, la danse se sont intéressés de très près, la danse puisqu'il y a le corps en mouvement, en action, le théâtre parce qu'il y a une autre façon de faire passer un texte ou une absence de texte avec aussi une autre corporalité. Mais en même temps, on assiste aujourd'hui puisqu'il y a une grande école de formation en France, mais il y a d'autres écoles, donc il y a des courants artistiques, et on voit bien que les arts du cirque aussi se posent la question, puisque nous avons des circassiens qui jouent, qui parlent sur scène, qui s'emparent de la parole, qui s'inscrivent dans une dramaturgie, puisque si on doit distinguer le cirque, un certain cirque traditionnel d'un cirque d'aujourd'hui, on peut se dire qu'en France il y a une recherche dramaturgique qui emprunte parfois au théâtre, là où forcément quelque part la notion d'interprète, la notion de numéro est un peu en retrait, mais on sent aussi que les jeunes gens d'aujourd'hui ont envie de comprendre d'où ils viennent et quelle est leur histoire. Donc on sent qu'il y a un retour vers le numéro qui est conduit par deux exigences, à la fois ce désir de reprendre l'histoire et aussi une contrainte économique qui fait que les modes de production ont changé. Ça n'a échappé à personne en France que nous avons de plus en plus de difficultés. Donc, on cherche et les artistes, à leur manière, tentent d'y répondre. Donc, en fait, c'est une évolution permanente. Il n'y a pas de datation au carbone 14, on va dire, sinon quelques dates historiques.
Et alors, plus spécifiquement, en Bretagne, est-ce qu'il y a une spécificité, enfin une histoire spécifique du cirque, une situation spécifique du cirque en Bretagne ?
Alors je suis pas historien des arts du cirque en Bretagne, mais c'est vrai que si je fais une photographie des compagnies, des artistes circassiens en France, tout le monde a repéré qu'il y a une forte présence de compagnies dans les régions du sud, au sud de la Loire. Par contre, il y a un courant en ce moment en Bretagne et il y a une arrivée de plus en plus prégnante de nouvelles compagnies, d'artistes confirmés et de jeunes équipes. Et je dirais que si nous n'avons pas d'école au sens où il n'y a pas le Lido, où il n'y a pas l'Académie Fratellini, où nous avons de plus en plus d'équipes professionnelles qui viennent s'implanter, puisqu'il y a aussi un très fort réseau de diffusion. Il y a un maillage du territoire énorme en Bretagne, c'est-à-dire de la petite salle entre guillemets perdue en centre-Bretagne ou équipement en périphérie d'un grand pôle, le maillage du territoire est très conséquent, donc la question de la diffusion, elle peut être absorbée. Et aujourd'hui, par exemple, le Carré Magique travaille aussi bien avec des petites entités, petites au sens économique et non pas artistique, hein, puisque là, ce serait vraiment médire et ce serait absurde et idiot. Mais il y a des entités économiques de petits gabarits et le Théâtre National de Bretagne, par exemple, qui est coproducteur avec le Carré Magique de Rémi Luchèze. Donc, il y a une mixité des lieux, un grand dialogue, ce qui fait que les artistes, et dans les Côtes d'Armor en tout cas, puisque Lannion s'y trouve, la première compagnie conventionnée enfin en cirque en Bretagne vient tout juste d'être conventionnée en 2011, donc c'est dire. Le Petit Cirque, qui est une équipe issue des Arceaux, donc équipe historique, mais les Galapia, jeune collectif artistique, s'est implanté à 60 km de chez nous, organise un festival. Beaucoup de festivals sont nés là dans les 2, 3, 4 dernières années en Bretagne. Donc il y a un grand mouvement, il va y avoir un phénomène d'aspiration, vous allez voir. On va vider le sud-ouest. Non, je plaisante.
On peut poser la même question donc à Sarka.
Yeah, like in Czech Republic, we've got totally different situation, really.
C'est la situation vraiment très différente en République tchèque.
Yeah, because the circus is now it's something like experiment a little bit. So we are really developing this like the circus like way of expression and blah blah blah.
C'est une phase d'expérimentation en ce moment, vraiment en République.
And now we've got like two festivals which are focused on contemporary circus. One is in Prague, which is called Letní Letná Festival. They will have a 9th edition this next year. So it was 8th edition, and now we've got this second festival in this small city called Trutnov, Cirkův.
Donc il y a deux grands festivals en République tchèque. Il y a à Prague, qui est un grand festival, qui est sa 8e édition, et à Trutnov, donc qui a eu sa première édition.
Yeah, and now we are developing it. So we've got the regular courses. We are supporting the training of the circus technique because it is the biggest problem that we are very good in theater in movement or in pantomime. We've got strong tradition in puppet theater. And these people, they really want to work with the circus skills and circus techniques just for the shows. They have no technique, so now they are training very hard and it's
alors il y a
start.
Un développement aussi de l'entraînement, enfin de l'entraînement au cirque, voilà, l'éducation, et il y a une forte tradition de pantomime et de marionnettes aussi, et c'est des gens qui veulent travailler maintenant avec les techniques du cirque, et donc on essaye de mettre l'accent là-dessus, sur l'entraînement de ces gens-là.
Now we've got one really good company and really famous company, which is called Aputika. They've got two shows and they are really very motivated to work, and they were in Edinburgh this year. It was really successful, so now they will tour around the world because they are going to Australia with the show La Putica, and then to Montreal, and like the next show will be with the cooperation with Cirque Aero. So this is like the first, it's like a pilot project in Czech Republic.
Donc il y a deux, grosses compagnies. Two companies?
One.
One, sorry.
Like this is the most famous.
Ouais, c'est là, il y a une grande compagnie en République tchèque qui s'appelle L'Apotheca.
L'Apotheca.
Qui a donc tourné partout dans le monde, à Édimbourg, à Montréal, en Australie, et donc qui est vraiment très très connue et qui fait vivre aussi, qui fait connaître aussi le cirque.
Voilà.
Mais comment le public tchèque réagit à cette nouveauté dans les arts du cirque? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment connu par le public?
How does the audience react to this new contemporary form of circus now? Is it well known now?
Yeah, it's really like big boom of contemporary circus. Yeah. People really just wanted to see the show, and it's really it's great, and it's motivation for them. Just they are trying, they are looking for courses, they are looking for training, and the young people, they are really motivated now to work, and it's great. Like, we are really at the beginning, so I hope in a few years we will have a really strong circus event.
Il y a vraiment une explosion du cirque. Le public réagit vraiment de façon très positive. Les jeunes en particulier, il y a une grande demande pour faire des écoles de cirque, etc. Donc ça marche vraiment très très fort.
And I think because, as I said, we are very strong in the history of puppet theater and this theater and movement and this kind of thing. So I'm sure that the Czech Republic or our style, a very special style of work, can bring something new to contemporary circus. So we are really, I think we are really interesting partners also for foreign countries and foreign aesthetics, because we are really special in it.
Il dit qu'il y a vraiment une spécificité dans le cirque contemporain en Tchécoslovaquie du fait de cette tradition de marionnettes et de pantomime, et pense qu'ils peuvent apporter quelque chose de nouveau aussi et qui pourrait intéresser les partenaires partout dans l'international.
Yeah, it's hard to explain it in the radio. You have to see
the
Czech aesthetic.
Il faut voir l'esthétique tchèque.
Something completely different.
C'est quelque chose de vraiment très différent.
On va finir par Céline, le Brésil.
Alors pour le Brésil, déjà il faut dire que c'est quand même un pays assez grand. Donc parler du cirque au Brésil, c'est un peu difficile du fait qu'il y aura beaucoup de spécificités selon les régions. Mais si vous voulez, je peux d'une façon un peu...
Mets bien le micro, voilà.
J'arrange déjà le micro, on n'est pas trop habitué à la radio. Alors d'une façon générale, pour en présenter un cadre, comme je vous disais, il y a quand même une tradition. Et c'est notamment une tradition de ce qu'au Brésil on appelle circo théâtre. En fait, c'est du théâtre quasiment, parce qu'il y a beaucoup de paroles. Il y a des personnes sur scène qui représentent des personnages. Et cette représentation, elle est d'une certaine façon médiée par un clown. Donc il y a ce personnage du clown qui donne un aspect burlesque et donc du cirque pour cette façon particulière d'art. C'est une chose qui est très traditionnelle, qui est aujourd'hui encore très populaire au Brésil, dans quelques régions, notamment dans les villes périphériques de l'État de São Paulo, dans quelques villes de São Paulo.
Et est-ce que la scène, elle est circulaire ou c'est du frontal, justement, dans cette forme de spectacle?
Ça peut être du frontal, ça peut être circulaire. Après, ça varie, mais vous pouvez le rencontrer dans une scène à la italienne, frontale. Et à partir de, pour vous donner un peu une idée d'un historique, à partir des années 70-80, il y a des écoles de cirque en fait qui commencent à se créer au Brésil, notamment Picolino à Bahia, Picadeiro dans l'État de São Paulo, l'École nationale du cirque dans les années 80 à Rio. Et avec ça, donc, bien sûr, on a de nouvelles perspectives. On a des jeunes qui vont commencer à créer un peu une nouvelle scène, mais toujours encore beaucoup de techniques. Et il y a également des compagnies qui se créent, comme Intrépida Troupe, à Rio de Janeiro, aussi dans les années 80, et qui vont là mixer le théâtre et mixer le cirque et la danse, en créant quand même des spectacles qui sont dans la scène de Rio et São Paulo très reconnus. Il y a notamment un groupe aussi qu'il faut mettre en relief, c'est Théâtre de Anônimo, C'est notamment un groupe de clowns. Ils ont créé le premier festival brésilien qui est un festival de clowns international qui s'appelle Anjo do Picadeiro et qui se passe tous les ans, en général à la fin de l'année, qui apporte des clowns de toute l'Amérique latine et même de tout le monde. Il y a des milliers de clowns dans la ville de Rio de Janeiro. Et de plus en plus, donc, à partir des années 80, il y a des festivals qui vont se créer. Et je pense que ça, c'est une ouverture pour d'autres expérimentations, pour ainsi dire.
Même question que pour Sarka tout à l'heure. Comment est connue cette scène du cirque par les spectateurs et par le public au Brésil ?
Alors, de nouveau, c'est très dur à parler. Moi, j'ai envie de dire que je ne fais que partager quelques impressions qui sont fragmentées, bien sûr, qui sont aussi assez subjectives et en construction, parce que le public au Brésil, c'est très difficile. Au sud du Brésil, vous n'allez pas avoir actuellement beaucoup de cirques. Par exemple, le cirque, il est notamment en train de se développer beaucoup dans la région sud-est, donc Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Pour le public, ça sera peut-être dans le festival un public plutôt jeune, un public qui accompagne cette scène parce qu'il est aussi intéressé par le théâtre et par la danse et par la musique. Après, pour ce qui reste, ce cirque, donc, pour les familles, ce cirque plutôt traditionnel, il est encore en train de tourner dans des petites villes. Et là, c'est un cirque qui est très populaire, où vous allez rencontrer la famille qui s'habille avec les vêtements de dimanche pour aller au cirque. Donc, il y a un public qui est très varié, qui peut aller dès les jeunes ou des jeunes couples avec les petits-enfants à des familles tout entières dans un contexte rural ou dans un contexte vraiment d'une culture très populaire où le cirque reste une possibilité de loisir que souvent est assez rare.
Alors, on va bientôt être au terme de notre émission et moi, je voulais savoir, parce que en vous écoutant tous, on a l'impression que le cirque, et finalement, et puis les compagnies, elles sont pas qu'en Europe, elles sont dans le monde entier. Alors, Philippe Le Gall, pour finir cette émission, la programmation de votre festival ou de votre saison cirque se regarde avec une vision internationale, c'est-à-dire qu'on a les yeux et les oreilles ouvertes au monde entier.
On essaye, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque vous le disiez, les arts du cirque étant présents un peu partout et se développant d'ailleurs de plus en plus, on le voit bien en Europe, mais pas seulement. On essaye évidemment avec nos moyens, ce temps qui est le temps de la découverte, d'aller dans des festivals ailleurs, ce qui n'est, bah, vous le savez, pas simple, puisque nos contraintes, dès lors qu'on programme du cirque, mais pas seulement, voilà, c'est à la fois la curiosité, les réseaux importants, les réseaux internationaux, de plus en plus présents, de plus en plus importants. Et je crois que ça, c'est positif, puisque souvent, les politiques nous regardent étrangement, mais nous les devançons dans les modes de coopération, et parfois, nous devons inventer des coopérations un peu singulières pour justement desserrer les taux et ouvrir les horizons. Et c'est vrai que c'est important pour les artistes, pour le public, mais c'est comme toute programmation, elle se construit au fil du temps, comme nous sommes aussi dans le cadre de nos missions très intéressés à la production par les résidences, ces coproductions. Donc c'est vrai que ça se construit au fil de l'eau, au fil des projets, et de plus en plus tôt et de plus en plus en amont des éditions. Mais c'est une recherche constante et c'est lié aux contraintes économiques et autres, bien sûr.
Is it difficult to have this traditional level in your international level, not traditional, in your programmation?
Like it's a question of money. Like for me,
c'est une question d'argent.
Yeah, like everywhere.
Il y a quand même aussi peut-être des questions de méthode. Est-ce que, par exemple, pour faire une programmation internationale, si on peut pas se déplacer, on utilise les nouvelles technologies, Internet, les vidéos, etc. pour essayer de faire une programmation.
Do you use new technologies to do your programmation, like internet, videos, and things like this?
Like the truth is that no.
No.
No, I'm trying to go to see the show because you know, like photos or short trailers, it can say something, but it's really necessary for me to see a whole show, how it works for the public. And yes, so I'm not surfing on YouTube because there's so many videos and blah blah. It's really impossible. And the recommendation, because like we are in the Circo Strada network, so we've got we are meet with professionals from all the Europe, and we are talking about it also. So just it is a recommendation, and I'm trying to see really as much show as possible in France, Spain, Belgium.
Bon, elle pense que pour elle c'est vraiment très important d'aller voir elle-même les spectacles et pas utiliser seulement les internet ou ces choses comme ça. Ça donne qu'une idée partielle. Donc elle y va en tout cas. Elle va voir.
L'importance des réseaux donc. Très important, ce que disait Philippe.
Is networks. You have the importance is to have a network of.
Circo Strada, c'est un réseau de diffusion européen, c'est ça?
Yeah, but it's a French project, as you know, like everybody knows. And for us, it is crucial. It was really like opening door to Europe for us. They really help us a lot.
C'est une façon de. Oui, so, très important d'avoir ce réseau et ça ouvre vraiment les portes de l'Europe pour
yes, because
pour
we are
festival.
In, yeah, we are in touch with professionals, so we can just share our experience. Because they was, I don't know, like someone of them, they was in the same situation like we are now in Prague and in Czech Republic, and it's really great that we can discuss together.
Voilà, c'est une façon de parler, de partager des expériences. C'est vraiment très très important.
Et Circa est un moment où les réseaux se rencontrent finalement, parce qu'il y a beaucoup de programmateurs, vous en êtes la preuve vivante, vous êtes un échantillon intéressant à scruter, messieurs, dames. Je voulais savoir comment vous vivez le festival, parce que vous n'êtes pas là que pour le plaisir.
How do you see the festival? How do you live the festival today? It's not only for pleasure, it's only for programmation, for your work. So how do you do? Yes, it's a question, yeah.
On va commencer par Philippe.
Oui, le festival, c'est un temps de travail d'abord, c'est vrai. Aucune ambiguïté, puisqu'il y a énormément de réunions à la marge de. Enfin, les jours de programmation, c'est aussi un endroit de rencontre informelle où se retissent les liens, où c'est une manière de se reconnecter à l'actualité, enfin, de vérifier toutes les hypothèses. Donc, effectivement, c'est Circa, c'est le rendez-vous où toute l'Europe, mais aussi bien au-delà de l'Europe, donc se retrouve. Et de fait, sans aller jusqu'à des gros mots, mais il y a un côté marché où les uns les autres discutent de projets futurs, beaucoup beaucoup de projets, de projections, de l'actualité des festivals. C'est aussi un temps de réflexion par rapport à nos économies et à nos possibles coopérations. Et c'est important de rencontrer, puisque oui, il y a les outils effectivement Internet, mais en réalité, on est le plus important, c'est d'être là, de voir, de se parler, puisque très clairement, dès lors qu'on se projette dans des projets, on accompagne des artistes en création, donc a priori, on ne sait pas ce que sera le geste artistique. Par contre, le fait de voir, de revoir, de dialoguer permet de ne jamais perdre ce fil du dialogue et de ressentir en fait les axes artistiques et en même temps de se confronter, puisque la notion du réseau, c'est en amont pour effectivement travailler à cette collecte d'informations, à une structuration, mais aussi également à imaginer des modes de production. Et c'est ce qui doit aujourd'hui sous-tendre toutes ces rencontres, puisqu'on voit que nos économies, même en France où on a longtemps été tête de pont, mais on voit bien que les moyens de production ont diminué, qu'il faut être extrêmement vigilant. Donc plus nous serons dans le dialogue, plus nous serons dans les réseaux, dans la construction avec les artistes, et meilleures seront les conditions de production et d'émergence artistique, puisque c'est quand même l'enjeu que le geste artistique soit à la hauteur de son ambition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'arracher pour accompagner, pour rassembler les partenaires. Et ce temps du festival, c'est évidemment un temps idéal pour ces rencontres.
Zarka, un mot sur ce sujet?
Yeah, of course I have to agree with Philip, because it's the really for us it's a fantastic opportunity to meet, because everybody from the circus world is here, almost everybody, and that's fantastic to see really the actual shows, you know, it's for us it's really a brilliant opportunity to meet actual circus and
Tout à fait d'accord avec Philippe, puisque c'est vraiment une opportunité de voir les nouveaux spectacles, de rencontrer plein de gens. C'est vraiment, pour elle, c'est vraiment formidable. On va peut-être s'arrêter là.
On va peut-être s'arrêter avec le mot peut-être de la fin de Céline, si tu veux dire quelque chose. Comment tu as vécu le festival, toi? C'est la première fois que tu venais à Circa?
C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir à Circa, même si j'y pense depuis un bout de temps. Je suis contente en fait de pouvoir partager cette table, je vous en remercie, parce que ça me permet aussi de voir ce point de vue des programmateurs qui est aussi bien important que celui du public, parce que voilà, en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et c'est intéressant de pouvoir l'accompagner.
Eh bien, sur ces mots, merci beaucoup à vous trois d'avoir passé une heure en notre compagnie. On est toujours sur Radio Circa, c'est les 103.5 sur la bande FM à Auch et à ses environs. Et si vous voulez nous laisser des messages, il y a un répondeur. Vous pouvez appeler le 05 62 61 65 50. N'hésitez pas à laisser vos impressions sur le festival, que vous n'aimiez ou pas les spectacles. Sur la radio, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez y aller, la parole est libre sur Radio Circa.
Et maintenant, c'est l'heure du rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.